Dans le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres que nous avons lu tout à l'heure, nous avons eu le récit de la conversion d'un homme qui avait tout un parcours derrière lui, tout un passé, et qui s'est converti à Jésus-Christ et dont la vie a changé de direction. La conversion. Et ça, c'est ce que chaque être humain est appelé à vivre par Dieu. Chacun ne le vivra pas, mais chacun est invité. Dieu ordonne à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, nous dira plus loin ce livre. L'être humain est coupé de Dieu. Une épître nous dit que nous étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et nos mauvaises œuvres, à la fois dans notre manière de penser, de réfléchir, de concevoir, et à la fois dans notre, dans ce qu'on fait, notre vécu, étrangers de Dieu. C'est-à-dire que des fois on croit le connaître. L'apôtre Paul croyait le connaître. Ouh là là, il avait un parcours religieux étonnant. Depuis tout petit, il était instruit dans le judaïsme, c'est-à-dire dans la Bible. Il avait été un élève studieux du plus grand rabbin de l'époque, Gamaliel. Il avait été enseigné donc à Jérusalem, bien qu'il vienne de Tarse. Et il avait tout un pédigré religieux. Et pourtant, bien qu'il prie Dieu, bien qu'il pense servir Dieu, bien qu'il soit versé dans, finalement, dans le religieux, il était quand même un étranger de Dieu. On voit un peu ce parcours en Galates 1. Si vous le prenez avec moi, l'Épître aux Galates au chapitre 1, au verset 13, où il dit: vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. On reviendra à ce texte, surtout au verset qui suit. Mais nous voyons qu'on peut être instruit à propos de Dieu, même à partir de la Bible, mais tant qu'on n'a pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui nous terrasse, qui nous met à terre et qui fait tomber les écailles de nos yeux, parce qu'on est des aveugles, eh bien, on reste étranger de Dieu et ennemi de Dieu. Ennemi. On dit, moi, j'ai jamais été un ennemi de Dieu. J'ai toujours cherché le bien. J'ai toujours agi dans ma conscience, etc. Ouais. C'est vrai. Mais tu te conduis quand même en ennemi de Dieu. Et tu as besoin d'être pardonné, nous le voyons en 1 Timothée, au chapitre 1, là encore, Paul parle de son expérience. 1 Timothée 1. Timothée, chapitre 1, verset 12, Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Oui, Paul dit, c'est vrai, j'étais avancé dans le judaïsme, etc., zélé, mais la réalité du terrain, même si c'était par ignorance, c'est que j'étais finalement un blasphémateur. C'est un comble pour un... Il faisait partie des pharisiens, probablement un comble pour quelqu'un du pédigré religieux de l'apôtre Paul. Blasphème, justement. Pour quelle raison a-t-on lapidé Étienne ? Pour blasphème. Voilà, Étienne a été lapidé pour blasphème. Et Paul, il dit, mais finalement, le vrai blasphémateur, au fond, c'était qui ? C'était moi, en fait. Et je ne m'en rendais pas compte. Alors, n'importe quel être humain a besoin de rencontrer Jésus-Christ. Et là, dans le chapitre 9, nous avons la conversion de l'apôtre Paul, et c'est la première chose sur laquelle je veux parler ce matin, c'est que dans la conversion de quelqu'un, il y a le moment, j'ai envie de dire, le récit extérieur de la conversion. Mais il y a aussi, finalement, la prise de recul ensuite sur tout le cheminement intérieur. Là, dans Acte 9, est-ce que ça nous parle du cheminement intérieur de l'apôtre Paul ? Non, ça nous parle des circonstances où Jésus l'a rencontré pour donner un tournant décisif à sa vie. Et nous avons ce récit, voilà, on voit Paul, une photo, à un moment, il persécute l'Église, il a obtenu des lettres pour que les chrétiens aient en toute légalité le droit de les emmener captifs, de les jeter en prison, etc. Et puis il est sur ce chemin, et puis il y a cette lumière, Jésus lui parle, et nous avons tout le récit où Paul rencontre Jésus, l'accepte dans sa vie, se tourne vers lui, se fait baptiser et change de conduite. Et ça, c'est déjà important. Tous ceux qui, à un moment, acceptent Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, doivent pouvoir raconter leur conversion, témoigner de leur histoire, dire voilà mon histoire et voilà dans quelles circonstances on m'a parlé de Jésus, voilà comment le moment où j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'important. De pouvoir, le mieux possible, avoir cette compréhension de l'avant et de l'après avec le moment de nouvelle naissance, le moment de conversion à Jésus-Christ, où on dit oui, là, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Je me souviens, c'était tel jour, ou etc., ou telle époque. Et parfois, nous avons affaire à des gens qui sont plus ou moins chrétiens. Et on ne sait jamais s'ils le sont plus ou s'ils le sont moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont été élevés un peu dans la foi, comme Paul, avec un arrière-plan religieux, chrétien, catholique peut-être, évangélique, même dans nos milieux. Puis ils ont suivi, puis ils ont continué, comme disait Paul, lui il continuait parce qu'il était zélé pour les traditions de ses pères. Traditions de ses pères. Ben voilà, en France, les chrétiens, quoi. On n'est pas musulman, on n'est pas bouddhiste, sauf selon les familles dans lesquelles on est né. Ben alors, quand on est né dans une famille musulmane et qu'on vient dans une église évangélique parce qu'on suit Jésus-Christ, en général, on est capable de raconter à quel moment on a pris cette décision. Mais dans un contexte un petit peu comme celui de l'époque en Israël, où tout le monde avait été élevé avec une Bible dans les mains, hein, tout le monde. On apprenait à lire dans la Torah, alors vous voyez. Eh bien, il y a une vraie nécessité d'avoir une vision claire, de dire oui, certes j'ai été éduqué dans la Bible, dans tout ça, mais il y a un moment j'ai pris une décision personnelle de suivre Jésus-Christ. Je me souviens, j'ai rencontré telle personne, ou tiens, on m'a distribué un traité, ou tiens, je suis passé sur le marché, il y avait un stand biblique, où j'ai trouvé la Bible de mon grand-père dans l'héritage, ou que sais-je. Chacun de nous a une histoire, oui. Chacun de nous doit pouvoir raconter son histoire quand il a décidé de suivre Jésus-Christ. Et c'est important. Comme je le disais, parfois, on a affaire à une chrétienté, des gens qui sont croyants, parce que c'est la culture aussi, ça a été aussi leur éducation, et on ne rejette pas. Mais on ne sait pas exactement jusqu'où ils se sont vraiment engagés à suivre Jésus-Christ. S'ils sont passés par la nouvelle naissance ou s'ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Et c'est fondamental, pourquoi ? Parce que la différence, tout simplement, c'est de continuer à être étranger et ennemi de Dieu ou pas. Et ça, c'est très important qu'un être humain puisse savoir s'il est toujours étranger et ennemi de Dieu ou pas. Et quand on me répond « mais moi, j'ai jamais été ennemi de Dieu et étranger », là, je sais que la personne n'est pas converti, c'est sûr, parce que quand on est passé par la nouvelle naissance, quel que soit notre pédigré d'avant, même si on priait, même si on faisait ce qu'on pensait juste, même si on croyait en Dieu, on est quand même étranger ennemi de Dieu. Et Paul l'était. Il avait besoin d'être sauvé. Tout juif bien élevé qu'il était, dans son cœur, il y avait le problème du péché. Et finalement, plus tard, il arrive à le dire. Il dit, en fait, j'étais un blasphémateur. En fait, j'étais un homme violent. En fait, ce qui habitait mon cœur, c'était la violence. Voilà la faille. Voilà, moi, mon problème, c'était ça. L'orgueil, la violence. Et puis, le radicalisme. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, je suis comme tout le monde, j'ai un cœur pécheur, sauf que moi, il dit, je suis le premier des pécheurs. Moi. Vous voulez trouver un vrai pécheur, c'est moi, il dit. Et en fait, ce qui a besoin d'être réglé, c'est le problème de mon péché. Quelle que soit la famille et l'éducation qu'on ait eue, même là où on prêche la parole de Dieu, et on l'entend à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, oui, j'ai un problème avec le péché, et à un moment, il va falloir que je prenne la décision, dire, ok, j'ai une nature pécheresse, je pêche, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs à l'école du dimanche de demander pardon à Jésus pour mes péchés, oui, 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 ok. Ok, mais maintenant, finalement, en toute conscience, connaissance de cause, est-ce que je veux décider de donner ma vie à Jésus-Christ? Est-ce que je fais le choix de lui appartenir, de le suivre jusqu'au bout et de passer de la mort à la vie par la repentance en disant oui, tous ces péchés, cette fois-ci, Seigneur, je te les donne une fois pour toutes, tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour que moi aussi je puisse marcher en nouveauté de vie et libéré de cet esclavage du péché, marcher pour la sainteté. Je prends cette décision aujourd'hui de t'appartenir, de devenir ton enfant. Paul, vous le verrez dans quelques chapitres, sera capable de raconter sa conversion. Et voilà pourquoi nous aimons, lorsque nous faisons les baptêmes, qu'une personne puisse raconter sa conversion. Parce que si elle se fait baptiser, c'est bien pour montrer qu'elle est morte à l'ancienne vie et ressuscitée pour la nouvelle vie. Quelle ancienne vie? Quelle nouvelle vie? Et c'est quoi qui est entre les deux? C'est la nouvelle naissance. C'est ce moment où je donne ma vie à Jésus-Christ, c'est la conversion à Jésus-Christ. Et ça ne passe pas inaperçu. On le sait parce qu'on le choisit, parce qu'on le décide personnellement. Cela étant, on ne se convertit pas comme ça du jour au lendemain. Nous avons dans les histoires des conversions, et si on raconte tous notre témoignage, on va pouvoir dire, ah ben moi c'était telle année, dans telle circonstance, avec telle personne, et voilà comment, oui, et c'est vrai. Ça, c'est la conversion, j'ai envie de dire le moment T, mais ça ne vient pas se poser sur le néant. Et chacun d'entre nous, nous avons depuis que nous sommes nés un cheminement spirituel. Il se passe des choses dans notre âme, dans notre esprit et dans notre vie, dans nos agissements, avec notre conscience également, avec une certaine conscience de Dieu, certaines relations aussi à Dieu. Comme Paul, ce n'était pas la première fois de sa vie qu'il priait, quand il a prié pendant 3 jours, là, quand il était chez le fameux Judas de la rue droite à Damas. Ce n'était pas la première fois de sa vie qu'il s'adressait à Dieu. Mais pourtant, il était perdu. Mais nous avons tous un cheminement particulier. Dans le chapitre suivant, chapitre 10, on verra le cheminement de quelqu'un d'autre, Corneille. Un Romain, un païen, mais qui avait entendu parler, etc., un cheminement particulier. Dans le chapitre qui précède, nous avons eu le cheminement de l'eunuque éthiopien. Il venait d'Éthiopie, on l'avait dit, certainement de ce peuple, les Bêta Israël, qui existe toujours aujourd'hui, qui pratiquait une forme de judaïsme, etc. Voilà, un cheminement spirituel. Chez les Samaritains, également, tout un vécu spirituel. Et on se souvient de la femme samaritaine qui parle avec Jésus. elle n'en est pas au néant dans son cheminement de cœur vis-à-vis de Dieu. Elle dit, bon, c'est où qu'il faut vraiment adorer? C'est à Jérusalem, c'est sur notre montagne à nous, c'est où, c'est quoi? Enfin, on a eu également le cheminement de personnes qui étaient dans l'occultisme. Vous vous souvenez de Simon le magicien et des gens qui l'écoutaient, qui étaient finalement sous son emprise, sous son influence, mais qui se sont tournés vers Jésus-Christ. Alors, nous avons, et tous les gens autour de nous, ont un chemin spirituel. Et dans ce chemin spirituel, à un moment, Jésus veut les rencontrer. Et il s'agit de, face aux gens qui sont autour de nous, de comprendre que lorsque nous allons pouvoir évangéliser, ce qu'on va dire va devoir et va pouvoir se greffer sur toute leur vie qui précède par croyance, que ce soit d'autres croyances trop larges, ou même très évangéliques. Oui, chacun a un cheminement, chacun a des réponses, des croyances qu'il se forge, des réponses qu'il donne à Dieu. Et le Seigneur veut et construit un chemin jusqu'à une interpellation. Que feras-tu de Jésus? Et à un moment, le Seigneur construit le chemin spirituel des gens pour qu'ils puissent dire oui, dire non à Jésus. Nous, on ne sait jamais où on en est. On ne sait jamais si on est parmi ceux qui commencent à semer. On ne sait pas si on est parmi ceux qui arrosent. Mais les deux sont nécessaires. Puis parfois, on est parmi ceux qui récoltent. Et quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, on dit, oh, c'est extraordinaire, pourtant je n'ai pas dit grand-chose, mais... Il y a eu tout un travail du Saint-Esprit, tout le chemin spirituel intérieur, tout un réalisé sa condition d'être humain, sa condition d'être humain, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice, de jugement. Vrai, pas dans le vrai. Et c'est intéressant de l'expression. Il dit que Paul demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Les partisans de la nouvelle doctrine, c'est pas du tout les mots grecs employés. Le mot grec employé, c'est pas du tout une nouvelle doctrine, c'est les étangs de la voie. Étang de la voie. Jésus l'a employé lui-même et des apôtres. Il est comme la voie. La voie, c'est-à-dire le chemin, V-O-I-E. La voie. Quelle voie? Ben, Jésus a dit « Nul ne par moi. » Finalement, le paysage, elle, qui, où Dieu a, on attendait le Messie arrive. Il est le chemin. Nous avons affaire à tout un peuple instruit des prophéties. Très bien. Pierre, allez au temps, quand le Messie. Eh bien, les âmes va reconnaître la voie. Et d'autres ne vont pas la suivre. Et seulement, il y a tout un travail pour que dans notre arrière-plan culturel, spirituel, tout un travail pour qu'on puisse discerner cette voie en Jésus-Christ que Dieu nous propose. Et pour pouvoir mettre le pied dedans et l'emprunter, on ne l'emprunte pas au hasard, sans connaissance de cause. Ah, ça y est, je distingue et je reconnais cette voie que Dieu donne. Il s'est fait homme, il s'est incarné, il est mort pour moi, il a payé à ma place et il me propose de lui donner ma vie, de lui obéir, de le suivre. Cette voie, un travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est de semer les graines de la parole de Dieu qui vont permettre aux gens de trouver, c'est immédiatement ce que Paul décrit à Damas, dans les synagogues de Dieu, dans les synagogues, sur le terrain juif. C'est justement la grande question. On attend le Messie. C'est la seule question à résoudre dans l'arrière-plan spirituel de ceux à qui il s'adresse. Et aussitôt, Paul prêche et il explique. Le verset 22 nous dit « Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Démontrant. Il va aller chercher dans l'Ancien Testament, hein, en disant « On va regarder le prophète Esaïe, ce qu'il a dit. Regardez le prophète David dans les psaumes, ce qu'il dit. Regardons que le Messie, c'est Jésus. » Chez certains, ça va germer. Certains auront besoin d'un arrosage un peu plus... Puis d'autres... Mais notre responsabilité, c'est de prêcher les êtres humains qui nous entourent dans l'échelle sociale et ils puissent être face à la voie en Jésus-Christ. Désir va être le dernier maillon spirituel dans cette recherche. Droite, on se tourne à gauche, on veut croire, on s'interroge sur Dieu. Et ça arrive à une maturité. Une simple rencontre, d'un simple traité, d'une simple Bible qu'on reçoit, d'un mot, pour que ce fruit mûr soit cueilli pour Jésus-Christ. Alors, ne nous impatientons pas. Prenons conscience que vraiment, quand on parle de Jésus aux autres, ça a besoin d'être assimilé. Ça a besoin d'être compris. Ça a besoin d'être digéré. Ça doit être un chemin d'une personne jusqu'à ce que la lumière se fasse en Jésus-Christ. Souvent montre par la suite qu'elles ne valent des adhésions soudaines comme ça, tac, sur un terrain en fait qui n'a pas été défriché, qui n'est plus, ça c'est son problème, hein, les islamistes, ceux qui viennent du paganisme, ceux qui viennent d'autres religions, ceux qui viennent du christianisme déviant, et j'emploie ce mot à dessein, déviant, ils sont nés du salut. Et ça c'est vrai, quand nous voyons chez l'apôtre Paul, c'est vrai, ça convient. Elle peut nous paraître subite. On voit tout un travail qui se fait. On revient au sujet. Galates 1, 13 et 16. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le... C'est Dieu. Mis à part dès le... En moi, son fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair et le sang, etc. Avait son regard sur l'apôtre Paul, dès avant nous-mêmes, dès avant notre naissance, et dans le cheminement que le Saint-Esprit conduit, le moment où le fruit est mûr, où il plaît à Dieu de révéler en nous, pour nous, révéler en nous, après des années, et tout un chemin. Et ce moment où, ça y est, on accueille le Seigneur Jésus entièrement, parce qu'en nous, qui il est, nous l'accueillons dans notre vie. Alors, et nous reprenons donc à cet égard le texte de tout à l'heure dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. C'est que l'apôtre Paul, dans l'exemple de conversion de qui il était, le Seigneur a voulu, pour qu'il serve avec cordon, j'ai envie de dire, de gens bien, de gens qui ont toujours une attention, faut fouiller dans le, voilà. Et puis des fois il y a la conversion de gens, c'est vraiment des gens imbuvables, avec un caractère problématique, voire. Et c'est le cas de l'apôtre Paul. Il dit, moi je suis venu pour ce que ça a Jésus, gens de mauvaise vie, avec des prostituées, avec des voleurs, avec des buveurs. Il dit, mais je suis venu pour les prostituées, je suis venu vivre dans la débauche, je suis venu pour les homosexuels, je suis venu pour toutes ces choses. C'est pas joli joli, hein. Il dit, ben oui. Moi, je suis venu pour les pécheurs. Et 1 Timothée 1 nous dit, verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Et ce verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Christ est venu les gens bien, corrects aussi, hein. Il veut sauver tout le monde, hein. Non, ça sert à rien de lui. On va pas s'en approcher. Il n'y a pas de chance de salut pour lui. Il est trop dans le. Certaine, entièrement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu. Donc, je suis le. Moi, si vous connaissiez vrai, vous y verriez un aperçu. Paul est menace avant. Hein? Vous avez déjà vu les. Des djihadistes, hein. Quelqu'un réalise mes convictions religieuses par rapport à Dieu, eh bien il agissait en faisant exécuter des chrétiens, en les jetant en prison, et il était dans son être intérieur, il disait j'étais un homme violent, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, il dit j'étais violent en fait, j'ai respiré la menace et le meurtre. Voilà, voilà quelqu'un que le Seigneur va sauver. Et pourquoi ? Ben, le verset 16 nous dit « J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, c'est-à-dire son amour, sa patience, sa longueur d'âme pour pardonner le coupable. Oui, Jésus est capable de pardonner le pire des pécheurs, dit Paul. Il dit « Cherchez pas plus loin ». C'est moi. Il dit, afin, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. C'est-à-dire, Paul dit, Jésus a voulu vraiment que je serve d'exemple. Voilà, moi je suis, il y a des modèles comme Corneille, puis il y a des modèles comme Paul. Des gens ravageurs, violents, d'un caractère... On dit, oh là là. Et bien il dit, ben, si Jésus m'a pardonné à moi, il peut aussi te pardonner à toi. Et nous avons besoin, lorsque nous sommes confrontés à des personnes, même que la société va montrer du doigt, nous avons besoin de creuser au-delà. Je pense à un exemple, en pensant par exemple à ce que la société va montrer du doigt. Aujourd'hui, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Alors, on en a de moins en moins, mais par exemple, si je dis des abuseurs d'enfants, alors là, on est tous d'accord pour dire... Alors là, Jésus veut-il transformer leur vie ? Ben oui, bien sûr. Peut-il le faire ? Oui. Ont-ils un cheminement intérieur ? Oui. Peuvent-ils agir par ignorance comme Paul le faisait ? Oui, parce que la plupart du temps, ils ont été abusés eux-mêmes. N'est-ce pas ? Je veux dire, c'est la réalité des choses. Et oui. Ne jugeons pas trop vite. Et c'est pour ça que c'est tellement important l'évangile. L'évangile, il est plus miséricordieux que ce que sera jamais notre société qui veut faire tomber toutes les discriminations, qui est bien pensante, etc. L'évangile, il va bien au-delà. Il veut vraiment sauver le pécheur parce que Dieu aime le pécheur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit et la vie éternelle. Alors, ne soyons pas arrêtés par des gens autour de nous dont le caractère est impossible, imbuvable, qui ont fait des choses odieuses, qu'elles soient répréhensibles par la loi ou simplement dans notre éthique, en disant « ça, c'est pas possible ben, ». Le Seigneur... veut les rencontrer comme il a rencontré l'apôtre Paul, pour qu'il y ait un avant et pour qu'il y ait un après. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est important. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Le fait que les choses anciennes soient passé ne signifie pas que, je dirais, les failles, nos anciennes failles, soient guéries d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, il y a un récit où Paul va réagir un peu vivement. On se souvient que c'est un homme violent. Quand il est amené devant le Sanhédrin et que quelqu'un ordonne qu'on le frappe, il va répondre. Il va dire ce qu'il pense. Puis on va dire, c'est comme ça que tu parles au souverain sacrificateur. Et il va demander pardon. Il dit, je ne savais pas, c'est vrai, il est écrit dans la parole, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ok. Hein? Ça ressort, hein. Mais ce qui est fondamentalement différent, c'est qu'autrefois nous étions impuissants face à tout ça. Et ce qui a changé, c'est que nous ne sommes plus sous l'autorité du péché dans notre vie. Nous avons la ressource de la victoire en Jésus-Christ, chose que nous n'avions pas autrefois. Et le Seigneur, dans nos failles, va nous apprendre à vivre en nouveauté de vie, à combattre le bon combat, à mettre en œuvre les ressources spirituelles qu'il nous a données. L'épître de Pierre nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il dit donc, faites tous vos efforts pour mettre en œuvre. Voilà. Avant, nous n'avions pas d'outils, nous n'avions pas de ressources. En Jésus-Christ, nous avons absolument tout ce qui est nécessaire. Et c'est par là qu'on va terminer en disant que vous voyez la rencontre de Paul, sa conversion, ce moment où il se positionne pour Jésus-Christ, comme pour nous, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est la première fois, c'est la plus grande et la plus importante de ces prises de position pour Jésus-Christ. C'est celle qui débute les autres. Parfois, nous avons une tendance à penser que c'est la seule et unique. Alors, c'est la seule et unique en ce qui concerne le fait de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, d'ennemi et étranger de Dieu à enfant de Dieu. Oui, on a besoin de se positionner qu'une seule fois pour devenir enfant de Dieu. Amen. Mais après, après, c'est cette prise de position. Elle ne fait que commencer le début de toute une série dans la vie du chrétien. Où on va, là Paul a dû se positionner par rapport à sa violence, par rapport à son aspiration finalement au meurtre, etc. Sous couvert de zèle religieux, hein, on sait bien cacher l'animal qui est en nous sous un vernis religieux ou autre, hein. Le nazisme l'a montré. Voilà. C'est... Paul, c'était pareil. Oui, là, il s'est positionné, il s'est repenti, il a fait ce demi-tour. Mais ça n'est pas la seule fois dans la vie du chrétien où nous sommes appelés à nous positionner. Le Seigneur va nous montrer des choses où nous allons devoir prendre une décision selon la volonté de Dieu ou pas. C'est comme le salut, hein, le salut, on est face à la voie, on est face à Jésus-Christ, face à l'évangile. On peut être mûr dans le cheminement spirituel, mais on peut dire oui ou on peut dire non. Il y a ceux qui acceptent l'évangile, la parole, ceux qui la refusent. Et pour le chrétien, c'est la même chose. Le Seigneur va nous travailler. C'est la sanctification. Il va travailler sur un aspect de notre vie. Peut-être sur un péché particulier, peut-être sur un service. Où il nous appelle au service, on dit non, moi je ne veux pas y aller. Je ne veux pas sacrifier ça, je ne veux pas. Et nous avons une prise de position à opérer. Alors, nous allons lire un texte où nous voyons cela. Sauf que là, tout de suite, je ne le retrouve pas. Alors, déjà, on va commencer, le temps que je le retrouve, par 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 9, voilà un texte qu'on n'a pas lu, où Paul parle à nouveau de son parcours et de la grâce de Dieu. Il dit « Je suis le moindre des apôtres », verset 9, « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est beau ça, hein ? Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et nous voyons là une expression que je recherche dans un autre texte, mais que je ne trouve pas pour le moment. Cette expression que la grâce de Dieu envers nous ne soit pas vaine. Il dit... Le Seigneur m'a sauvé, il m'a pardonné des choses graves et importantes, et je suis ce que je suis. Mais en tout cas, son pardon, eh bien, ça n'a pas été quelque chose en vain. C'est pas quelque chose que j'ai laissé tomber pour continuer à vivre ma petite vie tranquille. Non. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. En quelque sorte, elle a été productive. Vaine ou stérile. Est-ce que le pardon que nous avons reçu de Jésus dans nos vies et qui fait que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont faites nouvelles, on dit ouais, toutes choses sont faites nouvelles. Puis concrètement, ben en fait, on ne voit pas de fruits. C'est stérile, c'est vain, il n'y a pas de suite. On est content et heureux d'appartenir à Jésus-Christ, mais l'engagement s'arrête là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des prises de position pour Jésus-Christ qu'on ne prend pas. On a pris la première, celle qui fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle, mais les suivantes, on est un peu réticents. Alors, nous allons chercher le second texte, justement. Je pense que c'est soit dans la suite de Galates, soit dans Philippiens, soit dans Timothée, au choix. Pour le moment, je ne le retrouve pas. C'est un texte où Paul parle de son expérience et où il conclut en disant « Je vous exhorte donc à ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. » Bon, je pencherai pour Galates. Quand je retrouverai, je vous le donnerai. En tout cas, nous avons ce texte, hein, vraiment, où il nous dit, où il nous exhorte de ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Comme Paul qui dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine, n'a pas été stérile, au contraire, j'ai travaillé pour le Seigneur, je me suis lancé dans le ministère. Et dans Acte 9, nous voyons comment, dès que Paul est converti, il prêche la parole de Dieu, on cherche à le faire mourir, qu'importe, il continue. Eh bien, le Seigneur nous invite, nous aussi, à ne pas, finalement, rester assis sur nos lauriers. Hein. En disant, ça y est, j'ai trouvé Jésus-Christ, c'est extraordinaire, quelle belle chose. Esther, tu as trouvé ? 2 Corinthiens 6, 1. Alors, ça doit être ça. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 6 1 Voilà, c'est ça. C'est ça.
Donc 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et puis Paul va ensuite exprimer comment, à travers sa vie, il veille à être beau devant Dieu, j'ai envie de dire. Il cherche à ne scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Verset 4, il dit « Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons. Par quoi d'autre ? Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise, de la bonne réputation, étant regardé comme un posteur quoique véridique, etc. » Et il dit, voilà comment nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu en vain. Et il dit, mais vous, dans votre vie, ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose. Et quand il s'adresse ici aux Corinthiens, c'est pas tout à fait ça. On le voit au verset 11, 12, 13. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point les trois, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. C'est votre cœur qui s'est rétréci. Parfois, notre cœur aussi se rétrécit. Alors, soyons encouragés, comme Paul, à ce que la grâce de Dieu que nous avons reçue ne soit pas en vain. Ça veut dire, il y a la conversion. Mais il y a d'autres décisions qui ressemblent à la conversion. C'est pas la conversion, je passe pas de la mort à la vie. Je connais Jésus-Christ, il est mon Seigneur, mon Sauveur. Mais il y a des décisions et des combats où on a des renoncements à faire. On a des quelque part, je crois que c'est dans l'épître aux Hébreux, par exemple, il dit oh, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Vos décisions, elles sont pas encore très tenaces. Vous flanchez vite, vous cédez vite. On vous pousse un peu et oup, 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 je me laisse glisser. Dis non. Alors soyons exhortés, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, à dire, Seigneur, quelle décision, quel pas de plus je peux faire avec toi ? Prions. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es venu nous chercher. Tu es venu te faire connaître à nous. Et dans notre chemin spirituel, Seigneur, il y a eu ce moment où, qui était mûr pour que tu révèles Jésus-Christ en nous. C'était un moment extraordinaire, Seigneur, où nous sommes devenus tes enfants. Et nous voulons partager cette bonne nouvelle autour de nous, Seigneur, en considérant tous ceux qui sont autour de nous. Y compris, Seigneur, des personnes vers lesquelles nous n'aurions pas envie d'aller parce que nous les jugeons trop pécheresse. Mais tu es venu pour les pécheurs. Pour nous aussi, cela nous fait du bien parce que, Seigneur, si nous avons des choses à nous reprocher, des choses graves qui pèsent sur notre conscience, nous savons que tu es venu aussi pour tous ces péchés, honteux parfois, vraiment, mais que toi, tu laves par ton sang et tu nous rends blancs comme la neige. Et tu purifies notre conscience également. Tu nous redonnes toute valeur en Jésus-Christ et nous sommes précieux pour toi. Merci pour ta miséricorde et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons terminer avec un chant et puis les offrandes et les annonces. Dans les annonces, j'ai reçu les salutations à transmettre de la part d'Idriss et Delphine, qui sont aujourd'hui chez sa nièce à Cannes.
mais il salue bien l'Église. Dans les diverses annonces, c'est bien la rentrée de tout un chacun. J'espère que pour chacun, ça s'est bien passé. Prions pour ça, hein. Prions pour tous ceux qui font leur rentrée. Peut-être il y a des choses auxquelles je ne pense pas dans les annonces. Josiane.
Hier, voilà, j'étais chez une sorte, ça. Sa femme, elle me demande de prier de prier pour elle. Parce que ça dépend, il y a trop, c'est un peu plus compliqué, tout ça. Mais Josiane, ne prie pas, il faut que tu passes un peu pour la prier.
Donc prions pour Jacques et pour Eliane, parce que moi, après moi, ben c'est lourd. C'est lourd de s'occuper de quelqu'un qui finalement a perdu une grosse partie de ses souvenirs, qui ne réagit plus comme avant, hein, qui n'a plus la cohérence d'autrefois. Alors on veut vraiment prier pour Eliane. Peut-être on peut le faire maintenant. Hein. Franck, est-ce que tu veux prier, s'il te plaît, pour cela ?
Tu es le maître de toutes les choses. Tu es le maître de nos vies, tu es le maître de nos pensées, tu es le maître de nos souvenirs. Voulons sur notre particulière et approfondir de ça.
Chantons le 39.